Chapitre 4. Le banquet. Vous ne connaissez pas Rouen, Archambault, ni donc le château de Bouvreuil. Oh, c'est un gros château à 6 ou 7 tours disposées en rond avec une grande cour centrale. Il fut bâti voici 150 ans par le roi Philippe Auguste pour surveiller la ville et son port et commander le cours extrême de la rivière de Seine. C'est une place importante que Rouen, une des ouvertures du royaume du côté de l'Angleterre, donc une fermeture aussi. La mer remonte jusqu'à son pont de pierre qui relie les deux parties du duché de Normandie. Le donjon n'est pas au milieu du château. C'est une des tours, un peu plus haute et épaisse que les autres. Nous avons des châteaux pareils en Périgord, mais ils ont ordinairement plus de fantaisie dans l'aspect. La fleur de la chevalerie de Normandie y était assemblée, vêtue avec autant de richesse qu'il était possible. 60 sires étaient venus, chacun avec au moins un écuyer. Les sonneurs venaient de Cornélo quand un écuyer de messire Godefroy d'Harcourt, tout suant d'un long galop, vint avertir le comte Jean que son oncle le mandait en hâte et le priait de quitter Rouen sur le champ. Le message était fort impérieux, comme si messire Godefroy avait eu vent de quelque chose. Jean d'Harcourt se mit en devoir d'obtempérer, se coulant hors de la compagnie. Et il était déjà au bas de l'escalier du donjon, qui l'encombrait presque tout de sa personne, tant il était gras, une vraie futaille, quand il tomba sur Robert de Loris, qui lui barra le passage de l'air le plus affable. « Messire comte, messire, vous vous en partez? Mais monseigneur le dauphin n'attend plus que vous pour dîner, votre place est à sa gauche. » N'osant faire affront au dauphin, le gros d'Harcourt se résigna à différer son départ. Il partirait après le repas. Et il remonta l'escalier sans trop de regrets, car la table du dauphin avait grande réputation. On savait qu'il s'y servait merveille. Et Jean d'Harcourt n'avait pas acquis tout le lard dont il était bardé à sucer seulement des brins d'herbe. Et de fait, quel festin! Ce n'était pas en vain que Nicolas Braque avait aidé le dauphin à l'apprêter. Ceux qui y furent et qui en réchappèrent n'en ont rien oublié. 6 tables réparties dans la grande salle ronde. Au mur, des tapisseries de verdure, si vives de couleurs qu'on aurait cru dîner au milieu de la forêt. Auprès des fenêtres, des buissons de cierges pour renforcer le jour qui venait par les ébrasements comme le soleil à travers les arbres. Derrière chaque convive, un écuyer tranchant, soit pour les grands seigneurs le leur propre, et pour les autres, quelqu'un de la maison du dauphin. On usait de couteaux à manche d'ébène, dorés et émaillés aux armes de France, tout spécialement réservés pour le temps de carême. C'est la coutume de la cour de ne sortir les couteaux à manche d'ivoire qu'à partir des fêtes de Pâques. Car on respectait le carême. Pâté de poisson, ragoût de poisson, carpe, brochet, tanche, brême, saumons et bars, plats d'œufs, volailles, gibier de plumes. On avait vidé les viviers et les basses-cours, écumé les rivières. Les pages de cuisine, formant une chaîne continue dans l'escalier, montaient les plats d'argent et de vermeil où rôtisseurs, queues et sauciers avaient disposé, dressé, nappé les mets préparés sous les cheminées de la tour des cuisines. 6 échansons versaient les vins de Beaune, de Meursault, d'Arboise et de Touraine. Ah, vous aussi, cela vous met en appétit, Archambault. J'espère qu'on nous fera bonne chère tout à l'heure à Saint-Sauveur. Le dauphin, au milieu de la table d'honneur, avait Charles de Navarre à sa droite et Jean d'Harcourt à sa gauche. Il était vêtu d'un drap bleu marbré de Bruxelles et coiffé d'un chaperon de même étoffe, orné de broderies de perles disposées en forme de feuillage. Je ne vous ai jamais encore décrit, monseigneur le dauphin. Le corps étiré, les épaules larges et maigres, il a le visage allongé, un grand nez un peu bossué en son milieu, un regard dont on ne sait s'il est attentif ou songeur, la lèvre supérieure mince, l'autre plus charnue, le menton effacé. On dit qu'il ressemble assez, pour autant qu'on ait moyen de savoir, à son ancêtre Saint-Louis, qui était comme lui très long et un peu voûté. Cette tournure-là, à côté d'hommes très sanguins et redressés, apparaît de temps à autre dans la famille de France. Les huissiers de cuisine venaient d'un pas empesé présenter les plats l'un après l'autre, et lui, le dauphin, désignaient la table vers laquelle il devait être porté, faisant ainsi honneur à chacun de ses hôtes, au comte d'Étampes, au sire de la Ferté, au maire de Rouen, accompagnant d'un sourire avec beaucoup de dignité courtoise, le geste qu'il faisait de la main gauche toujours. Car, je vous l'ai dit, je crois, sa main droite est enflée, rougeâtre et le fait souffrir. Il s'en sert le moins possible. À peine peut-il jouer à la paume une demi-heure et tout de suite sa main gonfle. Ah, c'est une grande faiblesse pour un prince. Ni chasse, ni guerre. Son père ne se cache pas pour l'en mépriser. Comme il devait envier le pauvre dauphin tous ses seigneurs qu'il traitait. Les sires de Clers, de Graville, du Bec-Thomas, de Mennemar, de Braquemont, de Sainte-Beuve ou d'Oudetot, ces chevaliers solides, sur deux, tapageurs, fiers de leurs exploits aux armes. Il devait même envier le gros d'Harcourt, que son quintal de graisse n'empêchait pas de maîtriser un cheval, ni d'être un redoutable tournoyeur, et surtout, le sire de Biville, un fameux homme qu'on entoure beaucoup dès qu'il paraît en société, et à qui l'on fait raconter son exploit. « C'est celui-là même. Vous voyez, son nom vous est parvenu. Oui. » D'un seul coup d'épée, un Turc fendu en deux sous les yeux du roi de Chypre. À chaque récit qu'il recommence, l'entaille augmente d'un pouce. Un jour, il aura aussi fendu le cheval. Mais je reviens au dauphin Charles. Il sait, ce garçon, à quoi sa naissance et son rang l'obligent. Il sait pourquoi Dieu l'a fait naître, la place que la Providence lui a assignée, au plus haut de l'échelle des hommes, et que, sauf à mourir avant son père, il sera roi. Il sait qu'il aura le royaume à gouverner souverainement. Il sait qu'il sera la France. Et si, dans le secret de soi, il s'afflige que Dieu ne lui ait pas dispensé, en même temps que la charge, la robustesse qui l'aiderait à la bien porter, il sait qu'il doit pallier les insuffisances de son corps par une bonne grâce, une attention à autrui, un contrôle de son visage et de ses propos, un air tout ensemble de bienveillance et de certitude qui jamais ne laisse oublier qui il est, et se composer de la sorte une manière de majesté. Cela n'est point chose aisée quand on a 18 ans et que la barbe vous pousse à peine. Il faut dire qu'il y a été entraîné de bonne heure. Il avait 11 ans quand son grand-père, le roi Philippe VI, parvint enfin à racheter le Dauphiné à Humbert II de Vienne. Cela effaçait quelque peu la défaite de Crécy et la perte de Calais. Je vous ai dit après quelle négociation... Ah, je croyais. Vous voulez donc en savoir le menu. Le dauphin Humbert était aussi gonflé d'orgueil que perclus de dettes. Il désirait vendre, mais continuer à gouverner quelque partie de ce qu'il cédait et que ses états, après lui, restassent indépendants. Il avait d'abord voulu traiter avec le comte de Provence, roi de Sicile, mais il monta le prix trop haut. Il se retourna alors vers la France et c'est là que je fus appelé à m'occuper des tractations. Dans un premier accord, il céda sa couronne, mais seulement pour après sa mort. Il avait perdu son unique fils. Parti au comptant, 120 000 florins, s'il vous plaît, et parti en pension viagère. Avec cela, il eût pu vivre à l'aise. Mais au lieu d'éteindre ses dettes, il dissipa tout ce qu'il avait reçu en allant chercher la gloire à combattre les Turcs. Harcelé par ses créanciers, il lui fallut alors vendre ce qui lui restait, c'est-à-dire ses droits viagers. Ce qu'il finit par accepter pour 200 000 florins de plus et 24 000 livres de rente, mais non sans continuer de faire le superbe. Heureusement pour nous, il n'avait plus d'amis. C'est moi, je le dis modestement, qui trouvais l'accommodement par lequel on put satisfaire à l'honneur d'Humbert et de ses sujets. Le titre de dauphin de Viennois ne serait pas porté par le roi de France, mais par l'aîné des petits-fils du roi Philippe VI et ensuite par son aîné-fils. Ainsi, les Dauphinois, jusque-là indépendants, gardaient l'illusion de conserver un prince qui ne régnait que sur eux. C'est la raison pour laquelle le jeune Charles de France, ayant reçu l'investiture à Lyon, eut à accomplir au long de l'hiver de 1349 et du printemps de 1350 la visite de ses nouveaux états. Cortège, réception, fête. Il n'avait, je vous le répète, que 11 ans. Mais avec cette facilité qu'ont les enfants d'entrer dans leur personnage, il prit l'habitude d'être accueilli dans les villes par des vivats, d'avancer entre des fronts courbés, de s'asseoir sur un trône tandis qu'on se hâtait de lui glisser sous les pieds assez de carreaux de soie pour qu'il ne pendisse pas dans le vide, de recevoir en ses mains l'hommage des seigneurs, d'écouter gravement les doléances des villes. Il avait surpris par sa dignité, son affabilité, le bon sens de ses questions. Les gens s'attendrissaient de son sérieux. Les larmes venaient aux yeux des vieux chevaliers et de leurs vieilles épouses lorsque cet enfant les assurait de son amour et de son amitié, les louait de leur mérite et leur disait compter sur leur fidélité. De tout prince, la moindre parole est objet de gloses infinies par lesquelles celui qui l'a reçue se donne importance. Mais d'un si jeune garçon, d'une miniature de prince, quel récit ému ne provoquait pas la plus simple phrase ? À cet âge, on ne peut point feindre. Mais si, il feignait, et même il se plaisait à feindre, comme tous les gamins. Feindre l'intérêt pour chacun qu'il voyait, même si on lui offrait un regard louche et une bouche édentée. Feindre le contentement devant le présent qu'on lui remettait, même s'il en avait déjà reçu 4 semblables. Feindre l'autorité lorsqu'un conseil de ville venait se plaindre pour une affaire de péage ou quelque litige communal. Vous serez rétabli dans votre droit si l'on vous a fait tort. Je veux que l'on conduise enquête avec diligence. Il avait vite compris combien prescrire une enquête d'un ton décidé produit grand effet sans engager à rien. Il ne savait pas encore qu'il serait d'une santé si faible, bien qu'il fût tombé malade pendant plusieurs semaines à Grenoble. Ce fut durant ce voyage qu'il apprit la mort de sa mère, puis de sa grand-mère, et bientôt après le remariage de son grand-père et celui de son père, coup sur coup, avant qu'on lui annonçât qu'il allait lui-même bientôt épouser Madame Jeanne de Bourbon, sa cousine, qui avait le même âge que lui. Ce qui s'était fait a atteint l'ermitage au début d'avril, dans une grande pompe et toute une affluence d'églises et de noblesse. Il n'y a que 6 ans. C'est miracle qu'il n'ait pas eu la tête tournée ou perturbée par toutes ces pompes. Il avait seulement révélé le penchant commun à tous les princes de sa famille pour la dépense et le luxe. Des mains percées. Avoir tout de suite tout ce qui leur plaît. Je veux ceci, je veux cela. Acheter, posséder les choses les plus belles, les plus rares, les plus curieuses et surtout les plus coûteuses. Les animaux de ménagerie, les orfèvreries somptueuses, les livres enluminés. Dépenser. Vivre dans des chambres tendues de soie et de draps d'or de Chypre, faire coudre sur leurs vêtements des fortunes en pierreries, rutilées, c'est, pour le dauphin comme pour tous les gens de son lignage, le signe du pouvoir et la preuve à leurs propres yeux de la majesté. Une naïveté qui leur vient de leur aïeul, le premier Charles, le frère de Philippe le Bel, l'empereur titulaire de Constantinople. Ce gros bourdon qui tant s'agita et agita l'Europe et même un moment songea à l'Empire d'Allemagne. Un dispendieux, si jamais il en fut. Tous ont cela dans le sang. Quand on se commande des souliers dans la famille, c'est par 24, 40 ou 55 paires à la fois, pour le roi, pour le dauphin, pour Monseigneur d'Orléans. Il est vrai que leurs sottes poulaines ne tiennent pas à la boue. Les longues pointes se déforment, les broderies se ternissent, et l'on abîme en 3 jours ce qui a pris 1 mois de labeur aux meilleurs artisans qui sont dans la boutique de Guillaume Loisel à Paris. Je le sais parce que c'est de là que je me fais venir mes mules rouges. Mais moi, il me suffit de 8 paires à l'année. Et regardez, ne suis-je pas toujours proprement chaussé ? Comme la cour donne le ton, seigneurs et bourgeois se ruinent en passementerie, en fourrure, en joyaux, en dépenses de vanité. On rivalise d'ostentation. Pensez que pour orner le chaperon que portait Monseigneur le Dauphin ce jour de Rouen que je vous conte, on avait usé 1 mar de grosses perles et 1 mar de menues, commandées chez Bellomé Turel pour 300 ou 320 écus. Allez vous étonner que les coffres soient vides quand chacun dépense plus qu'il ne lui reste d'argent. Ah, voilà ma litière qui revient. On a changé d'attelage. Eh bien, remontons. Il en est un, en tout cas, à qui ses difficultés de finances profitent et qui fait bien ses affaires sur la pénurie de la caisse royale. C'est Messire Nicolas Braque, le premier maître de l'hôtel, qui est aussi le trésorier et le gouverneur des monnaies. Il a monté une petite compagnie de banque, je devrais dire une compagnie de frime, qui rachète parfois aux deux tiers, parfois à la moitié, parfois même au tiers prix, les dettes du roi et de sa parenté. La machinerie est simple. Un fournisseur de la cour est saisi à la gorge parce que depuis 2 ans ou plus, on ne lui a rien versé et qu'il ne sait plus comment payer ses compagnons ou acheter ses marchandises. Il s'en vient trouver Messire Braque et lui agite ses mémoires sous le nez. Il a grand air, Messire Braque. Il est bel homme, toujours sévèrement vêtu, et ne prononce jamais plus de mots qu'il n'en faut. Il n'a pas son pareil pour rabattre aux gens leur caquet. Tel qui arrivait en pétant « Cette fois, il va m'entendre, c'est que j'en ai gros à lui dire et je ne lui mâcherai pas mes mots », se retrouve en un tournement balbutiant et suppliant. Messire Braque laisse tomber sur lui, comme une douche de gouttière, quelques paroles froides et roides. Vos prix sont forcés, comme toujours, sur les travaux qu'on fait pour le roi. La clientèle de la cour vous attire maintes pratiques sur lesquelles vous gagnez gros. Si le roi est en difficulté de payer, c'est que tout l'argent de son trésor passe à subvenir aux frais de la guerre. Prenez-vous-en aux bourgeois, comme maître Marcel, qui rechigne à consentir les aides. Puisque vous peinez tant à fournir le roi, eh bien, on vous retirera les commandes. Et quand le doléant est bien assagi, bien mari, bien grelottant, alors Braque lui dit « Si vraiment vous êtes dans la gêne, je veux essayer de vous venir en aide. Je puis peser sur une compagnie de change où je compte des amis pour qu'elle reprenne vos créances. Je tenterai, je dis bien, je tenterai qu'elle vous soit rachetée pour les 4/6 et vous donnerai quittance du tout. » La compagnie se fera rembourser quand Dieu voudra regarnir le trésor, si jamais il le veut. Mais n'en allez point parler, sinon chacun dans le royaume m'en viendrait demander autant. C'est grande faveur que je vous fais. » Après quoi, dès qu'il y a 3 sous dans la cassette, Braque prend l'occasion de glisser au roi. « Sire, je ne voulais point, pour votre honneur et votre renom, laisser traîner cette dette criarde, d'autant que le créancier était fort monté et menaçait d'en esclandre. J'ai, pour l'amour de vous, éteint cette dette avec mes propres deniers. » Et par priorité de faveur, il se fait rembourser du tout. Comme c'est lui, d'autre part, qui ordonne la dépense du palais, il se fait arroser de beaux cadeaux pour chaque commande passée. Il gagne au debout, cet honnête homme. Ce jour du banquet, il s'affairait moins à négocier le paiement des aides refusées par les États de Normandie qu'à traiter avec le maire de Rouen, maître Mustel, du rachat des créances des marchands rouennais. Car des mémoires qui dataient du dernier voyage du roi, et même d'avant, restaient impayées. Quant au dauphin, depuis qu'il était lieutenant du roi en Normandie, avant même d'être duc en titre, il commandait, mais sans jamais solder aucun de ses comptes. Et Messire Braque se livrait à son trafic habituel, en assurant le maire que c'était par amitié pour lui et pour l'estime dans laquelle il tenait les bonnes gens de Rouen qu'il allait leur rafler le tiers de leurs profits. Davantage même, car il les paierait en francs à la chaise, c'est-à-dire dans une monnaie amincie. Et par qui ? Par lui, qui décidait des altérations. Reconnaissons que lorsque les États se plaignent des grands officiers royaux, ils y ont quelques motifs. Quand je pense que Messire Enguerrand de Marigny fut naguère pendu parce qu'on lui reprochait, 10 ans après, d'avoir une fois rogné la monnaie. Mais c'était un saint auprès des argentiers d'aujourd'hui. Qui avait-il encore à Rouen qui mérite d'être nommé ? Or, les serviteurs habituels et Miton le Fol, le nain du dauphin, qui gambadait entre les tables, portant lui aussi chaperon emperlé. Des perles pour un nain, je vous le demande. Est-ce bonne manière de dépenser les écus qu'on n'a pas ? Le dauphin le fait vêtir d'un drap rayé qu'on lui tisse tout exprès, à gants. Je désapprouve cet emploi qu'on fait des nains. On les oblige à bouffonner, on les pousse du pied, on en fait riser. Ce sont créatures de Dieu, après tout, même si l'on peut dire que Dieu ne les a pas trop réussis. Raison de plus pour leur témoigner un peu de charité. Mais les familles, à ce qu'il paraît, tiennent pour une bénédiction la venue d'un nain. Oh, il est petit, puisse-t-il ne pas grandir, on pourra le vendre à un duc ou peut-être au roi. Non, je crois vous avoir cité tous les convives d'importance, avec Friquet de Fricamp, Graville, Mennemar. Oui, je les ai nommés. Et puis, bien sûr, le plus important de tous, le roi de Navarre. Le dauphin lui réservait toute son attention. Il n'avait guère d'efforts à faire, d'ailleurs, du côté du gros d'Harcourt. Celui-là ne causait qu'avec les plats. Il était bien vain de lui adresser parole pendant qu'il engloutissait des montagnes. Mais les deux Charles, Normandie et Navarre, les deux beaux frères, parlaient beaucoup. Ou plutôt, Navarre parlait. Ils ne s'étaient guère revus depuis leur équipement quai d'Allemagne, et c'était tout à fait dans la manière du Navarrais que de chercher, par flatterie, protestation de bonne amitié, souvenirs joyeux et récits plaisants, à reprendre empire sur son jeune parent. Tandis que son écuyer, Colin Doublet, déposait les mets devant lui, Navarre, rieur, charmant, plein d'entrain et de désinvolte, « C'est la fête de nos retrouvailles. Grand merci, Charles, de me permettre de te montrer l'attachement que j'ai pour toi. Je m'ennuie depuis ton éloignement. » lui rappelait leur fine partie de l'hiver précédent et les aimables bourgeoises qu'ils jouaient au dé. À qui la blonde, à qui la brune. « La cassine, elle est grosse à présent, et nul ne doute que c'est de toi. » Et de là, passait aux affectueux reproches. « Ah, qu'es-tu allé conter tous nos projets à ton père? Tu en as retiré le duché de Normandie, c'est bien joué, je le reconnais. Mais avec moi, c'est tout le royaume que tu pourrais avoir à cette heure. » Pour lui glisser enfin, reprenant son antienne, « Avoue que tu ferais un meilleur roi que lui. » Et de s'enquérir, sans avoir l'air d'y toucher, de la prochaine rencontre entre le dauphin et le roi Jean, si la date en était arrêtée, s'il aurait lieu en Normandie. J'ai ouï dire qu'il était à chasser du côté de Gisors. Or, il trouvait un dauphin plus réservé, plus secret que par le passé. Affable, certes, mais sur ses gardes, et ne répondant que par sourire ou inclinaison de tête, à tant d'empressement. Soudain, il se produisit un grand fracas de vaisselle qui domina les voix des dîneurs. Miton le Fol, qui s'employait à singer les huissiers de cuisine en présentant un merle, tout seul sur le plus grand plat d'argent qu'il avait pu trouver, Miton venait de laisser tomber le plat, et il ouvrait la bouche toute grande en désignant la porte. Les bons chevaliers normands, déjà fortement abreuvés, s'amusaient du tour qu'ils jugeaient fort drôle, mais leurs rires se coincèrent aussitôt dans leur gorge. Car de la porte surgissait le maréchal d'Audrehem, tout armé, tenant son épée droite, la pointe en l'air, et qui leur criait de sa voix de bataille « Que nul d'entre vous ne bouge pour chose qu'il voit s'il ne veut mourir de cette épée !»« Ah, mais... » ma litière est arrêtée. « Eh oui, nous voici arrivés. Je ne m'en avisais point. Je vous dirai la suite après souper. »